cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph le 14 janvier 1987.
N'existe que dans la mesure où cet amour et dans la mesure où cet amour est vécu. C'est le vécu de l'amour qui est le fondement de toute morale. Et plus le vécu de l'amour est intense, plus nous avons le sens de la responsabilité et le sens moral. Dans une civilisation ou une culture où il n'y a plus que l'efficacité, la morale baisse. Et au bout d'un certain temps, il n'y a plus aucun sens moral. On devient hors moral parce qu'il n'y a plus d'amour. Et la seule manière de refaire vivre ce sens moral, c'est de redonner le sens de l'amour. D'où l'importance d'aujourd'hui de rappeler l'exigence du cœur profond, c'est-à-dire de cette volonté capable d'aimer et de vivre du bien. Le bien spirituel, c'est une personne. Il n'y a pas d'autre bien spirituel que la personne. Cherchez bien les petits gâteaux. Ce n'est pas un bien spirituel. La fameuse pomme, ce n'est pas un bien spirituel. Le bien spirituel, c'est une personne. C'est la vie. En définitive, c'est la vie. C'est le bien-aimé. Et on rejoint tout l'aspect spirituel par là. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Ça, c'est le cœur profond du Père qui s'est révélé à nous. Le cœur profond de Dieu qui se révèle à nous. Par et dans cette paternité aimante vis-à-vis du fils bien-aimé. Ça fond dans une vue de sagesse, dans une vision de sagesse, ça fond de tout amour. Et nous sommes créés à l'image de ce Fils, dans la mesure même où il a en nous cette réponse à celui qui nous aime, à celui qui est notre bien, le Père. Et la personne la plus aimée, c'est le Père. C'est lui qui nous attire, puisqu'il est le bien suprême. Comprenons bien cela, parce que ça c'est fondamental. C'est quelque chose qui doit toujours être présent dans toute l'éthique. Tu vois, dans toute l'analyse que nous faisons de l'éthique. C'est toujours présent. Et dans la mesure où ça disparaît, l'éthique disparaît. Et l'analyse que nous faisons n'a plus de sens. Alors, comprenons bien que dans un langage philosophique, je parle d'appétit spirituel et de volonté pour redonner au sens de la volonté son sens plénier, qui est ancien, qui est celui d'Aristote, qui est celui de saint Thomas. L'appétit spirituel. Et l'appétit spirituel, c'est la volonté. Et la volonté est faite en premier lieu pour aimer. Ensuite, la volonté sera d'ordre pratique, vous voyez. Je crois qu'il faudrait bien comprendre ces trois stades. Ce premier amour spirituel qui naît, le duvet du nid, le duvet du nid, pour prendre un langage symbolique, un cœur brûlant d'amour. Le cœur profond, c'est un cœur brûlant d'amour. Et la profondeur du cœur provient justement de l'amour. L'amour creuse. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a que du charbon noir. C'est le cœur de pierre. Alors, Donc cet amour, c'est le cœur profond. Ça, c'est le langage des spirituels. Très bien, il faut l'employer. C'est de l'ordre de l'exercice. Le langage des philosophes, c'est de parler d'un appétit spirituel égale volonté. Je sais qu'en disant ça, je restitue à la volonté sa signification profonde. La volonté, c'est la dynamis, c'est la puissance, la capacité d'aimer. Alors vous voyez, quand vous dites ça, que la volonté c'est la capacité. dans le langage courant, depuis Pascal et depuis Descartes, on oppose un homme de cœur et un homme réalisateur efficace. Dans le langage courant, vous dites constamment, cet homme, il est merveilleux dans son efficacité, mais il manque de cœur. Il faut surtout pas lui donner l'autorité, parce que c'est terrible. Et puis vous dites, cet homme est merveilleux, il a un cœur d'or. Mais il manque d'efficacité, il manque de volonté. Comme si l'amour supprimait la volonté. Ça vous rend mou. Mais l'amour n'est pas la mollesse. C'est pas la mollesse. Alors, écoutez Nietzsche quand il parle justement de la douceur ecclésiastique. Alors, c'est on voit très très bien comment c'est arrivé à ça. Alors, c'est tombé dans de la vaseline. La vaseline, on sait très bien ce que c'est. C'est une douceur écœurante. C'est juste l'inverse de l'amour. L'amour implique une détermination. Parce que l'amour vous finalise. Le bien devient ma fin. C'est ça qui est important. C'est pour ça que je maintiens le mot appétit spirituel et le mot volonté. Pour bien faire comprendre l'importance de l'intelligence qui va faire que cette intelligence affective qui naît à l'intérieur de ce cœur profond, de cet appétit spirituel, dans ce qu'il a de plus profond en moi, de cette volonté qui naît en moi dans son exercice d'aimer, qui va devenir en deuxièmement l'intention. L'intention de vie. Or, l'intention de vie, c'est l'intelligence qui va ordonner cet amour spirituel. Et cette intention de vie est encore le fruit de l'appétit spirituel et de la volonté. Et cette intention de vie, elle se porte sur le bien spirituel, la personne, en tant qu'elle est ma fin. C'est très important ce passage du bien à la fin qui se fait grâce à l'intelligence pratique. L'intelligence affective devient d'intelligence pratique. Parce qu'il y a un ordre. C'est ça le propre de l'intelligence pratique. Elle ordonne. L'intention de vie ordonne mon amour. Mais il est à l'intérieur de l'amour. Il y a un passage de l'un à l'autre. Puis troisième moment, l'imperium. L'imperium fait ceci, qui est commandé par le choix. Donc, amour spirituel, intention de vie, choix. Voilà les trois moments de mon intelligence affective et pratique, et les trois moments de ma volonté. Ma volonté aime, ma volonté s'ordonne vers la fin, ma volonté choisit les moyens. Et lorsque j'ai choisi mes moyens, je dis « fais ceci » et je suis dans l'ordre de l'efficacité. « Fais ceci », c'est mon devoir qui apparaît là. L'homme de devoir. Il n'y a pas d'opposition entre le cœur profond et le devoir. Si vous mettez une opposition entre les deux, c'est parce que vous n'avez pas compris que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus efficace dans ma vie. Et ça, c'est constant. Vous voyez, des jeunes gens, c'est parce que ça arrive de temps en temps, des jeunes gens très bien, n'est-ce pas ? Qui sont des dilettantes, numéro un. Il suffit qu'ils rencontrent une jeune fille qu'ils aiment et qu'ils désirent en faire leur épouse, pour que celle qui sera la fiancée dit « Mon cher ami, il faut quand même faire quelque chose dans la vie. Si tu restes un dilettante, tu resteras un dilettante toute ta vie, tu ne feras rien du tout. » Alors, à ce moment-là, l'amour devient ce qui va commander l'efficacité. Et vous verrez le bonhomme complètement transformé. Parce qu'il commencera à aimer. Jusque-là, il était dilettante. Il n'avait jamais aimé de sa vie. Et c'est vrai, c'est constamment comme ça. On devient intelligent pour ce qu'on aime. Et l'intelligence devient pratique alors. Et elle devient efficace. C'est le sens du devoir. Ouais, le sens du devoir. Hein. Très facilement, parce qu'on est tous un peu conscients. On identifiera le sens moral et le sens du devoir. Alors que le sens moral, ce n'est pas en premier lieu le sens du devoir. Le sens moral, c'est en premier. Le sens moral, c'est en premier lieu l'intention de vie être finalisée. Et radicalement, c'est le cœur profond, c'est l'amour. Mais je crois qu'on doit restituer aujourd'hui au plan philosophique au nom volonté et appétit spirituel toute sa signification en comprenant que la volonté et l'appétit spirituel c'est mon cœur profond, c'est ce qui est source de mon intention de vie et c'est ce qui me permet mes choix qui portent sur les moyens et l'imperium, l'exécution. Crois ceci capital. Bon. Alors, le grand ennemi numéro un, vis-à-vis de cette réalisation à l'intérieur de l'amour, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui garde en lui cet amour profond et qui, en même temps, n'hésite pas de s'engager. Parce que l'imperium, c'est l'engagement. Je vous donne ma parole, je ferai ça. C'est au niveau de l'imperium que l'obéissance se fait. C'est au niveau de l'imperium. C'est pas au niveau du cœur profond. Non. C'est pas au niveau du cœur profond. C'est au niveau de l'imperium. Or, l'obéissance est liée à l'amour. Et lié au cœur profond. Donc, est lié à ce premier amour. Quel est le grand ennemi de ce développement que je peux analyser en moi? C'est l'imaginaire. L'imaginaire lié aux passions, à mon affectivité sensible.
Aristote détecte ça. Utit pluribus, la plupart du temps.
crédit sur tous les jeunes. Pas les jeunes chrétiens, mais les jeunes, au sens grec. La plupart du temps, ils demeurent dans leur sensibilité. Ils ont une peine énorme de dépasser l'affectivité passionnelle. La plupart du temps, ils demeurent dans le sensible, ce qui se voit, ce qui se montre.
Donc c'est pas du tout la petitesse évangélique, c'est tout simplement qu'on a peur.
flattement, les autistes, espèce d'imbécile. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu dis des bêtises. Et c'est vrai que c'est ça. Alors on a peur à l'onceté. On a la caricature de la petitesse évangélique, qui est l'attitude de celui qui fait un complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité, c'est celui qui a peur de dire ce qu'il pense à cause de l'opinion des autres. Alors, il répète ce que son journal dit. Parce que comme ça, c'est le journal qui encaisse. J'ai vu dans tel journal que on disait cela. C'est peut-être vrai. Oui, on n'ose pas. Ballon d'essai. On n'ose jamais dire ce qu'on pense. Alors on se met sur l'autorité. On se met derrière l'autorité. Et plus l'autorité est grande, plus on est à l'abri. Donc, c'est l'exaltation de l'opinion, la vanité, l'opinion des autres dont on se sert. Alors, l'orgueil. Eh bien, je crois qu'il faut bien comprendre ce bouillon de culture que nous portons en nous. Aut in pluribus, manat in sensu. C'est l'imaginaire et les passions affectives. On reconnaît tout ça. Je crois qu'il ne faut pas examiner tellement sa conscience pour s'apercevoir de ça. C'est l'examen psychologique ici. Hein. On s'aperçoit immédiatement qu'il y a vraiment trois barrières à dépasser. Sans dire que ce sont les conséquences du péché originel, mais si je suis chrétien et que je suis philosophe, je sais que le regard de sagesse de Dieu sur moi est plus profond que toutes mes analyses philosophiques. Or, le regard de sagesse de Dieu sur moi me dit que je vis dans les trois concupiscences, conséquences du péché originel. Je le sais. Et je n'ai pas le droit de dire « ça ne m'intéresse pas au plan philosophique ». Ça m'intéresse grandement au point de vue pratique. Ce que saint Jean me dit dans la première épître, c'est très important, concupiscence des yeux, concupiscence de la vie, concupiscence de la chair. Bon, ça c'est la foi qui me le dit. Alors, j'ai le droit d'essayer de comprendre cela au plan philosophique. Essayons de comprendre comment au plan philosophique, c'est vrai, je vois qu'il y a trois barrières difficiles à franchir. Très difficile à franchir, qui toutes les trois proviennent de l'imaginaire et des passions affectives. Alors c'est très curieux de voir que ces trois barrières empêchent le développement profond de l'amour en moi. Et c'est ce que je vais essayer de voir avec vous, ça, parce que ça me semble très important. Vous voyez ? Je sais que l'origine de ça me vient de la foi. Mais j'ai le droit de me servir de cela au plan philosophique. Étant donné que c'est tellement complexe de me connaître, j'ai peut-être là une piste merveilleuse. Bon, je vois qu'en effet, c'est très difficile de dépasser le bien immédiat, sensible. J'aime le chocolat, et le chocolat de marque, celui qu'on considère comme le premier. J'aime ce qui est bon, je m'arrête à ça. Alors quand c'est que le chocolat, ça va, mais quand le chocolat prend la physionomie d'une personne humaine, c'est plus délicat, vous comprenez ? Mais c'est toujours le chocolat. Et donc, c'est toujours un bien sensible qui m'attire. Et la physionomie humaine, c'est une marque sélecte. Alors, c'est la concupiscence charnelle, c'est bien évident. Je risque de m'arrêter là-dessus. J'aime Parce que celui-là, il est plus loin de la vaseline. Que le chocolat au lait. Alors vous aimez le chocolat noir, vous aimez un regard noir. Vous aimez ça, c'est quelque chose qui vous attire. Puis à l'autre extrémité, il y a un regard bleu ou fascinant. C'est très curieux, la fascination du regard. Je me souviens, c'était la remarque d'un vieux permettre. Il me dit ça au novice, ça m'est resté. Hein. Il y a des choses comme ça qu'on garde toute sa vie. Ce qui est important à détecter, c'est les regards. Ce que les vieux philosophes disaient, le feu qui part du regard. Alors vous fusillez quelqu'un par votre regard, vous terrassez. Ça m'est bien. On voit très bien ça. Le vieux mythe du serpent et du petit oiseau. Il le fascine. Il le fascine comme ça. Et le petit oiseau. Dans toute communauté, dans toutes les relations humaines, il y a des serpents avec des yeux. N'en pouvez rien, vous avez des yeux de serpent. Puis petit oiseau. N'en pouvez rien avec ce petit oiseau. Vous êtes fasciné par ça. Le tout, c'est de le savoir. Parce qu'alors, on fait des détours pour ne pas rencontrer de serpent. Vous savez bien, il y a cette histoire extraordinaire. Il y aurait des tas d'histoires à côté de moi. C'est très extraordinaire. Mais il faut comprendre ça. Il faut comprendre cette fascination qu'on peut avoir. On est tous capables de séduire un petit oiseau. Mais le petit oiseau est différent pour chacun d'entre nous. Parce que quelquefois, c'est une grosse arme.
Cette espèce de concupiscence charnelle.
L'Écriture nous montre que même de vieux juges sont séduits par Suzanne. La belle Suzanne. Elle a des yeux bleus. Alors ils sont séduits. Et tout dégringole. Tout leur raisonnement de juge dégringole. Ils choisissent immédiatement. C'est très curieux. Alors on appellera ça en bonne théologie des tentations. Nous devons regarder la réalité cachée. C'est le bien sensible. C'est le bien sensible qui se donne de multiples manières parce qu'il a des facettes différentes. C'est le bien sensible qui me séduit. Qui me séduit, qui me prend. C'est ce regard sensible qui me séduit, qui m'inhibe et qui fait que je tombe dans le panneau. Et je ne choisis plus le bien, le moyen, le bien relatif en vue du bien. Je le choisis pour lui-même. J'en fais un certain absolu. Et plus personne ne pourra me dire. Attention, attention. Non, je serai dedans. Il y a un autre obstacle. Je suis très sensibilisé. Ah, ça, c'est l'âge politique pour saint Thomas. Mais l'âge politique, ça pousse très vite aujourd'hui. À l'opinion des hommes. Vous voyez, l'opinion des hommes. Quand on est encore jeune, on ne s'en occupe pas tellement. Et quelquefois, on ne s'en occupe pas assez. Parce qu'il faut s'occuper un tout petit peu de l'opinion des autres, quand même. Hein. Je n'ai pas le droit de scandaliser. Je n'ai pas le droit de scandaliser. Si je suis à côté d'enfants, et les enfants, quelquefois, ils sont dans les vieillards, je n'ai pas le droit de scandaliser. Donc, je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi dans n'importe quel lieu. L'opinion des hommes. On est sensibilisé à l'opinion. Par notre grosse vanité, c'est encore l'imaginaire lié à la passion, avec en plus l'intelligence, mais l'intelligence inhibée dans l'imaginaire. Et je suis sensible au milieu, à l'opinion des autres. L'opinion des autres, qu'est-ce que ça va faire? L'opinion des autres va jouer par rapport à mon intention de vie. Le choix. Je prends un petit exemple. Parce que c'est intéressant de voir ça. La vocation de Thomas d'Aquin. Intention de vie. Thomas d'Aquin était dans un certain milieu particulier. On acceptait sa vocation, mais surtout pas chez les frères prêcheurs. Qui était un nouvel ordre qui venait de commencer. On voulait à tout prix qu'il devienne abbé chez les bénédictins. Il avait le nom pour cela. Et donc on voulait. Si Thomas d'Aquin n'avait pas été assez fort, assez pris par l'amour qu'il avait pour le Christ, il serait tombé dans le panneau. On se laisse influencer par l'opinion des autres. Et on ne suit plus son intention de vie. Ça, c'est très net. Je pourrais prendre des quantités d'exemples. Je prends cet exemple parce que il est particulièrement intéressant. On voulait pas que Thomas d'Aquin entre dans un ordre nouveau qui n'avait pas encore fait ses preuves, comme on dit aujourd'hui. Alors, on acceptait, oh oui, qu'il se donne au Seigneur très bien, mais dans un ordre qui a fait ses preuves, les bénédictins, et qu'il soit abbé. Tandis que chez les frères prêcheurs, il n'y avait plus d'abbé. Donc, il ne ferait jamais carrière. Parce qu'il fallait être abbé pour faire carrière. Étant abbé, on avait des prébendes. Et donc, on avait son avenir assuré. Vous voyez l'opinion des hommes. Aujourd'hui, on verrait des choses très analogues. L'opinion des hommes. L'opinion ecclésiastique. L'opinion politique. Les opinions familiales. familiales, les opinions de tradition familiale, qui peuvent devenir quelque chose de très fort, qui empêche l'intention de vie. Ça, c'est vrai, ça, il faut le reconnaître, que c'est quelque chose qui peut être très très fort et nous inhiber complètement. C'est pas commode de lutter contre des opinions familiales. Quand on a un grand-père qui rappelle les traditions. Oh, jamais de mon temps on aurait fait ça. Jamais. Ça, c'est bien les jeunes d'aujourd'hui. Alors ils font ça. Ils choisissent une orientation de vie sans tenir compte. Ou bien il y a l'inverse. Ce qu'il peut y avoir très bien l'inverse. Ah, oh, tu fais ça, mais alors, tu es traditionnaliste. Tu tombes dans des ornières, tu vois pas. Il faut être à la fine pointe du progrès, autrement on n'est rien. Mais l'intention de vie qui prend des modalités différentes, je crois qu'il y a une inhibition. Les opinions, on enfle les opinions. Enfler les opinions, c'est l'imaginaire. Étudier ce que c'est que les opinions politiques, les opinions dans un milieu donné, les opinions familiales. Ça arrête, ça empêche le choix de vie, l'intention de vie. Et puis il y a quelque chose de beaucoup plus subtil encore. C'est l'orgueil. L'orgueil, hein. L'orgueil, c'est nous. C'est l'exaltation de nous. Au-dessus de tout. Je suis le seul, après tout, à connaître la situation interne. Je sais ce que je vaux. Jusque maintenant, personne n'a su comprendre que j'étais, on n'ose pas le dire, mais un génie. J'étais bien plus intelligent que tous les autres qui sont à côté de moi. Je dois percer. Je dois à tout prix arriver. Alors, on s'exalte soi-même. Et cette exaltation de soi arrête l'amour. Ça prend des formes diverses, hein, mais ça arrête l'amour. Parce que aimer, c'est justement accepter qu'il y a un autre devant nous. Accepter qu'il y a un autre devant nous. L'amour spirituel me met relative à un autre. L'orgueil exalte l'autonomie de l'intelligence. Il n'y a que ce que je pense qui est intéressant. Tout ce que les autres pensent et tout ce que les autres ont pensé avant moi, c'est idiot. Mais on n'accepte pas de se mettre à l'école d'un maître, qu'il soit vivant ou mort. On n'accepte pas comprendre que l'amour est premier. Ça, c'est l'orgueil. Donc, on retrouve bien les trois grands obstacles. Ça, je crois qu'on les retrouve très nettement, indépendamment, encore une fois, des concupiscences du péché. Je les constate. Il y a un obstacle formidable à l'amour. C'est l'orgueil qui est en moi. Il y a un obstacle formidable au choix de l'intention de vie, à l'intention de vie, à l'orientation de ma vie, c'est l'opinion des hommes. Et puis un obstacle très très grand par rapport au choix immédiat, c'est la concupiscence charnelle. C'est la plus sensible, la plus visible. C'est très curieux, hein. Ces trois obstacles, ce serait très intéressant à les étudier. Ces trois obstacles sont très différents selon l'âge qu'on a. Ça, c'est sûr. L'obstacle qui dure le plus, c'est l'orgueil. Et l'orgueil nous suivra jusqu'au bout. L'obstacle de l'opinion, c'est l'homme politique qui est en nous. Et l'individu, vous voyez, je pourrais dire la personne, l'homme politique et l'individu. L'individu, c'est la grosse concupiscence immédiate. Or, en nous, l'individu dépassé par l'homme politique. Et l'individu est dépassé par la personne. La personne au sens fort, l'esprit qui est en moi. Je crois qu'on peut découvrir ça. Je sais ça. Alors, qu'est-ce qui va me permettre de lutter contre cela? C'est mon intelligence pratique qui va se développer progressivement dans ce qu'on va appeler la prudence. Je dois lutter intérieurement pour que l'amour soit victorieux de ces différents obstacles. La prudence, au sens noble, c'est permettre la victoire de l'amour. C'est donc permettre que mon cœur profond devienne un cœur profond. C'est de permettre à ma volonté, à mon appétit spirituel, d'être celui qui oriente ma vie. C'est donc d'arriver à être maître de moi-même, dominatsui, arriver à me dominer. C'est ça la volonté. La volonté, c'est celle qui arrive à orienter ma vie vers le bien, le vrai bien, vers l'ami, le véritable ami. C'est de faire que je devienne progressivement un fils bien-aimé.